13h-14h,
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce midi sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, chaque jour vous faire découvrir des hommes et des femmes qui croient en leurs rêves et qui inventent aussi la société de demain, qui font perdurer nos savoir-faire à la française. Le mondial du tourisme, c'est cette semaine à Paris, l'occasion pour nous de découvrir des entrepreneurs qui ont imaginé les nouvelles attractions touristiques. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Un plongeon maintenant dans le passé, 1611, pour redécouvrir l'eau de Mélisse des Carmes. Elle a traversé le temps. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis si vous voulez vous mettre au vegan et que vous ne savez pas par où commencer, une appli vous aide, c'est Vegup et c'est la solution. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Alors, pour accueillir nos invités, vous allez voir que les Français ont su d'ailleurs prendre le tournant de l'innovation pour nous surprendre et inventer de nouveaux modèles. À mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayagela, bonjour.
Salut Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Luc Le Sénécal, PDG de Saint-James et président de l'Association des entreprises du patrimoine vivant. Bonjour Luc.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Si vous êtes en ce moment, tiens, à Paris, comme nous, il y a, vous allez voir, une nouvelle manière de découvrir la ville. Il vous suffit, j'ai envie de dire, tout simplement de mettre un casque. Bonjour Arnaud Huet.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez travaillé pendant 3 ans sur le projet FlyView avant de vous lancer finalement. C'était au mois d'avril 2018. FlyView, j'ai envie de dire que c'est voir la capitale d'en haut, mais sans monter véritablement à bord d'un avion ou d'un hélicoptère, puisqu'on est dans des locaux, place de l'Opéra.
Oui, c'est ça, exactement. Place de l'Opéra. On peut, grâce à la réalité virtuelle, décoller au-dessus de Paris et survoler Paris et voir Paris d'une manière très spectaculaire, très amusante, en survol, avec une vue sur les monuments très belle.
C'était votre rêve d'enfant de voler ?
Oui, c'était depuis toujours, j'ai envie de voir les choses d'en haut, je me serais bien vu comme un oiseau. Un jour, la réalité virtuelle est arrivée et je me suis dit, c'est le moment.
Et donc, on embarque véritablement, comme si on allait à l'aéroport, pour entrer dans vos locaux chez FlyView. Et puis, on va avoir un billet, on va mettre un casque et décoller.
Oui, c'est ça. En fait, effectivement, on arrive dans un aéroport virtuel. C'est au coin de la place de l'Opéra. Et vous avez des horaires de départ, vous avez pris votre billet. À un moment, vous êtes appelé pour votre vol. Vous arrivez dans une pièce où vous avez des engins volants, qui sont des jetpacks, qui ne seront pas vraiment volants, mais très franchement, on va avoir vraiment l'impression de voler. Et là, vous mettez votre casque, vous avez le compte à rebours, et vous décollez. Et vous vous élevez dans les airs, vous voyez, vous prenez de la hauteur, et tout d'un coup, vous surgissez au-dessus des toits de Paris. Et là, vous commencez un voyage.
Et on a une vision à 360 degrés.
Oui. Oui, oui, vous pouvez voir à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, derrière, comme si vous y étiez.
Quand on tourne la tête, évidemment, on se déplace finalement, voilà. Et on voit d'autres monuments s'offrir à notre vue. Dites-moi, comment est-ce que vous avez, parce que je l'ai dit, 3 ans de travail hein, avant d'en arriver là, comment est-ce que vous avez élaboré ce fameux simulateur ?
Eh bien, en fait, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Au départ, il y a une envie, hein, celle de voir Paris d'une manière très spectaculaire, totalement nouvelle. Vous cherchez les bonnes personnes, les meilleures personnes qui vont vous permettre d'agglomérer les technologies et de pousser les technologies jusqu'au maximum. Et puis, vous faites un prototype. Et puis, après ça, vous tournez des images au-dessus de Paris en drone. Et tout ça, c'est beaucoup de gens. Un jour, finalement...
Une centaine de personnes qui ont travaillé sur ce projet, c'est
oui,
ça ?
Oui, oui, en 3 ans, plus d'une centaine de personnes.
Que dit notre coach de ce FlyView qui nous fait découvrir Paris autrement ?
Je trouve que c'est une excellente idée, mais j'ai plusieurs questions. Si je comprends bien, c'est à la fois un simulateur de vol avec un écran presque en 3D. Quoi.
C'est exactement ça. Vous êtes sur un simulateur de vol et en plus, vous avez un casque de réalité virtuelle.
On est debout hein, sur, ouais. Sur, je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs.
Un jetpack.
Un jetpack.
Comme James Bond, on monte sur un jetpack.
On se tient à des commandes.
Oui,
et on a le casque par-dessus les yeux.
Oui, c'est ça. Donc en fait, cette association de différentes technologies va nous donner l'impression qu'on décolle, va nous faire permettre de voir partout, et on va être dans les mouvements du vol.
D'accord. Et est-ce que vous avez prévu de faire ça sur d'autres villes, ou c'est une première, c'est...
Ben, en fait, c'est vrai, un jour, j'espère, FlyView Paris aura tellement convaincu les touristes, mais aussi les Parisiens, que ça donnera envie de faire des FlyView à Londres, à Pékin, à New York et partout ailleurs.
Vous pouvez aussi imaginer le FlyView à Londres qui projette Paris.
Ah ben oui, exactement.
Plus besoin de se déplacer quelque part.
Un jour.
Tout est possible.
Oui.
Vous avez d'ailleurs déjà des régions qui sont venues vous voir. Moi, comme ça, spontanément, je pense au Château de la Loire.
Alors, les Châteaux de la Loire, ça serait une très bonne idée. On y pense. On discute un peu. Le Mont-Saint-Michel, ce serait
évidemment
extraordinaire. Le Mont-Blanc, la Provence, l'Alsace. En fait, je pense que ça se fera un jour.
Et vous avez déjà des destinations que vous proposez aussi. Au départ de Paris, vous nous emmenez découvrir les merveilles du monde, parce qu'il y a la Grande Muraille de Chine, il y a les chutes Victoria, et j'en passe. On peut finalement voyager en restant à Paris.
Et oui, exactement. En fait, voilà ce qui va se passer. C'est qu'une fois que vous aurez décollé et que vous serez arrivé au-dessus des toits de Paris, vous allez vous retrouver dans un parcours qui va vous emmener Place de la Concorde, vous allez voir très bien l'obélisque, vous allez remonter les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, vous allez rentrer à l'intérieur de la Tour Eiffel avec votre jetpack, vous allez voler à l'intérieur, vous allez survoler toute la Seine, et à la fin, vous allez arriver au-dessus de Notre-Dame. À ce moment-là, vous avez la possibilité d'aller au-dessus d'un certain nombre d'endroits du monde. Alors, effectivement, survoler la Grande Muraille de Chine, survoler les chutes extraordinaires de Victoria en Afrique, et un certain nombre de sites comme ça. À la fin, vous atterrissez, vous êtes à Paris.
Vous avez essayé, Anissa, je crois.
Alors, c'est ma fille qui a 9 ans et demi qui a essayé, et elle s'est régalée parce que les enfants, ils ont une vision de Paris. On leur parle de la Tour Eiffel, de Notre-Dame, mais déjà, ce sont des monuments qu'ils voient à leur hauteur, et ils n'imaginent pas comment ça peut être quand on passe au-dessus. Et alors, c'est bravo, monsieur, parce que c'est un cours de géo. Génial. Ma fille, elle est rentrée, elle m'a parlé de l'Afrique, de la muraille de Chine, des choses qu'elle ne connaissait pas forcément. Et pour les enfants, c'est une super distraction.
C'est pour tous les âges ?
Oui, c'est pour, vous savez, 7 à 77 ans. Parce qu'en fait, les enfants adorent. Les ados adorent aussi. La réalité virtuelle, super. Les jeunes, très bien. Et puis, on a des retraités qui viennent et qui sont enchantés d'avoir pu faire une expérience un peu techno, et finalement très, très marrante.
Et le prix du billet ?
15 euros.
15 euros, un peu plus cher si on veut faire le voyage complet.
Oui, il y a une possibilité de faire le tour du monde à 19 euros.
En Chine, c'est un peu plus cher.
C'est de toute manière moins cher que si on prend l'avion. Elisabeth, on se rend compte que la tech-tourisme a véritablement révolutionné tout le secteur.
Mais oui, hein, là, depuis quelques années, on est en pleine transformation digitale du tourisme. La tech-tourisme, je rappelle, ce sont ces entreprises qui se sont mises au digital. Ça part même des agences de voyage pour que toutes les réservations se fassent sur téléphone. Et c'est le cas aujourd'hui, plus de 87% des réservations liées au tourisme, aux attractions touristiques comme la vôtre, se font sur téléphone ou sur Internet.
On reste ensemble, on va continuer à voyager aujourd'hui avec les nouvelles attractions touristiques françaises.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Voir la ville autrement, sous un nouveau jour, inexploré, c'est aussi l'ambition de My Urban Experience qui réinvente, vous allez le voir, la découverte touristique. À tout de suite.
Le meilleur de la France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1 et des innovations estivales ce 16 juillet concernant le tourisme.
Quel meilleur moyen pour découvrir une ville touristique que de déambuler? Mais il faut savoir aussi sortir parfois des sentiers battus. C'est ce que propose justement My Urban Experience. Bonjour Jean-Baptiste Deluc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé en 2016 cette société. Il faut dire que vous étiez toujours dans le tourisme depuis 2002. J'ai égratigné votre nom, c'est Delsuc en fait.
Oui, mais ça,
j'ai dit Deluc,
ça n'a aucune importance.
Allez, c'est remis dans l'ordre. Vous étiez dans le tourisme depuis 2002. Je crois que vous avez travaillé
longtemps dans le domaine du tourisme, principalement chez Nouvelles Frontières. Et effectivement, c'est quand même un domaine que je connais assez bien. et le plaisir de servir des clients sur des découvertes.
Donc vous avez eu envie, justement, en ayant connaissance de la manière dont nous, touristes, on pouvait se déplacer dans une ville, de réinventer un peu la visite. Comment justement on peut devenir original ?
Bah, c'était vraiment notre objectif quand on a lancé la société, c'était de proposer des visites originales et puis surtout d'essayer de développer des nouvelles expériences.
Mais alors c'est quoi être original ?
Plein d'essais. Être original, ça peut être dans des thématiques, aborder des thématiques qu'on ne voit pas en général dans le milieu touristique. Par exemple, voir Paris à travers les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo ont beaucoup utilisé Paris. Ça peut être en inventant des nouveaux jeux, et puis c'est aussi en essayant de trouver des nouvelles technologies pour permettre d'expérimenter des nouvelles expériences.
Alors, vous avez décidé de proposer des escape games, des visites culturelles en partenariat avec des films. C'est-à-dire, ça change quoi, finalement, quand on découvre Paris, par exemple, à travers un film ?
En fait, l'idée, c'est de prolonger en fait une expérience. Alors surtout les films, là en l'occurrence c'était le fameux Dilili à Paris, donc nous on a une clientèle qui est très familiale, et en fait c'est pour permettre aux enfants qui vont voir un dessin animé qui leur parle de la belle époque, qui leur parle de la fin du 19e, de voir un petit peu comment c'est aujourd'hui, de le mettre en rapport, de découvrir l'opéra, de découvrir l'obélisque de la Concorde, de découvrir les Tuileries à travers les yeux de Dilili, mais aussi à travers les yeux et le discours du guide qui va les accompagner. Prolonger une expérience.
Alors justement, les guides, vous en avez recruté. C'est une équipe de guides qui est à votre service, qui est finalement un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir.
Oui, alors ça c'est le choix qu'on a fait dès le départ, c'est d'avoir nos propres guides, de les recruter, parce que au-delà des visites, nous ce qu'on veut c'est justement produire aussi, rechercher des nouvelles expériences. C'est un peu aussi dans ce cadre-là qu'on a lancé ces visites qu'on appelle visio-guidées. Donc avoir nos propres équipes, ça nous permet de pouvoir être en permanence à la recherche de nouvelles sensations.
Alors comment est-ce qu'elles fonctionnent ces visites par smartphone interposé? Ça existait déjà un peu, mais vous avez encore révolutionné le concept?
En fait, en termes de visites que l'on fait par soi-même, vous aviez aujourd'hui la possibilité soit d'avoir un guide, soit d'avoir un audio-guide.
Un audio-guide, oui.
Mais en revanche, le faire avec un vrai guide qui est présent virtuellement avec vous, ça c'est quelque chose qui n'existait pas.
Donc on télécharge l'application, vous avez le smartphone avec vous, vous allez nous montrer. On télécharge et puis qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de faire une visite, par exemple, dans le quartier latin.
En fait, on a développé donc ces visites en partenariat avec Skyboy, qui est une société qui a inventé le concept de overlap reality. Donc on a la réalité virtuelle, on a la réalité augmentée, et là c'est la réalité un peu superposée. Donc le principe, il est simple, c'est qu'on a tourner dans un certain nombre d'endroits qui sont emblématiques du quartier, avec un guide, avec une caméra à 360. Qui
et on le voit à l'écran, hein,
pouvoir,
sur Europe 1, bref.
Voilà, de voir un petit peu tout autour de vous. Et le système va vous géolocaliser, et ensuite il va vous demander de vous positionner à un endroit très précis. Donc là, je ne sais pas si on le voit clairement à la caméra, mais vous arrivez par exemple au Pont-Neuf, donc on vous dit mettez-vous là. Une fois que vous dites j'y suis, il va vous dire...
Un point de rendez-vous donc.
Voilà. Un point de rendez-vous, vous avez la carte exactement comme Google Maps pour vous dire exactement où aller. Ensuite, une fois que vous êtes proche de l'endroit, vous dites « je vois l'arbre qui est là, je vois le pont qui est ici,
le
etc. »
Le guide apparaît.
Donc là, vous dites « j'y suis ». Là, le téléphone vous dit « mettez exactement la photo que vous voyez en correspondance avec ce que vous voyez en réalité ». Et quand vous appuyez sur « OK », le guide apparaît et va vous expliquer exactement le site. Là, par exemple, on est sur le Pont-Neuf, et il va vous expliquer le Pont-Neuf, l'histoire du Pont-Neuf, etc. Et donc, en fait, vous avez vraiment l'impression que le guide est avec vous.
C'est génial. Que dit notre coach ?
Je pense, Jean-Baptiste, que votre idée est géniale. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on avait fait une étude en 2016 avec le ministère des Affaires étrangères sur ce que recherchait un touriste, qu'il soit français ou étranger, quand il vient en France. Il recherche trois choses. La première, visiter un monument historique. C'est fait. Déjeuner dans un restaurant typique avec les produits de la région, et surtout, ce qui est très nouveau, de vivre une expérience unique, nouvelle, inédite. Alors, on parle beaucoup du tourisme de savoir-faire, mais votre expérience s'inscrit totalement dans cette démarche. Et je crois que votre idée ne peut que fonctionner.
Et on s'aperçoit, hein, Elisabeth d'ailleurs, qu'il y a de plus en plus de numérique finalement dans le tourisme. Vous avez trouvé, je crois...
Quelques-unes. C'est difficile de faire un choix.
Ouais, hein.
Alors, par exemple, tiens, si on allait se promener dans la forêt de Montmorency,
allons-y,
tout en profitant d'explications sur ce qui nous entoure, c'est l'offre de tourisme Pleine Vallée qui propose donc une application mobile gratuite. Donc, c'est aussi bon pour les offices de tourisme, hein, pour mieux faire connaître les particularités du massif forestier valdoisien. Le principe, eh bien, c'est de proposer donc ces balades en forêt avec un smartphone, un casque audio. Le visiteur peut se promener, écouter de la musique, écouter les bruits historiques de la forêt, des animaux, des minéraux. Et l'application pourra même, par exemple, simuler le passage d'animaux. Vous avez aussi le jardin d'acclimatation qui a été rénové récemment, qui propose, c'est une première, une réserve virtuelle. C'est-à-dire que vous allez vous enfiler un casque individuel, vous l'ajustez et là, vous vous laissez porter. Une fois le film lancé, vous êtes dans un tout autre monde, vous êtes dans la nature sauvage. Le spectacle se déroule à 360 degrés. Vous avez donc des aires de jungle, des plantes vertes qui dégoulinent du plafond et une ambiance avec qui mêle des cris d'oiseaux, de souris, d'animaux. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire.
Oui, c'est un voyage finalement presque immobile.
C'est une invitation au voyage.
Invitation au voyage. On reste ensemble et on continue à se promener justement aujourd'hui pour découvrir les innovations touristiques à la française. Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous restez avec nous et vous connaissez tous probablement les Pokémon Go. Et si on découvrait justement en jouant, c'est ce que propose Augmenteo qui arrive très bientôt sur le marché. À tout de suite.
Vous retrouvez tout l'été jusqu'à 14h, Raphaël Duchemin, le meilleur de la France Bouge. La France Bouge qui soutient des projets innovants et français en matière de tourisme et qui font appel à des outils ludiques qui nous sont familiers.
Vous connaissez tous la fameuse carte au trésor. Eh bien aujourd'hui, on peut jouer en réalité augmentée et découvrir en même temps. La preuve, bonjour Charlotte Landry.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice d'Augmenteo. Vous dites on est effectivement à mi-chemin entre Pokémon Go et Netflix, c'est-à-dire vous nous embarquez dans des découvertes, mais avec des personnages, c'est ça ?
C'est ça, l'idée c'est vraiment de prendre le parti d'utiliser ce qu'on a tous les jours dans la main, c'est-à-dire notre propre smartphone, et de venir un peu chercher la curiosité du visiteur, puisque actuellement quand on visite une ville, on est souvent passif, on écoute le guide, on prend des photos, mais on a envie de plus, on a envie d'interagir, de faire partie du film quelque part. Donc quand on dit qu'on aimerait se rapprocher d'un Netflix du Pokémon Go, c'est-à-dire qu'on va venir proposer un catalogue d'expériences finalement à vivre en extérieur, en réalité augmentée, aux visiteurs. Je me promène dans une ville, je sors mon téléphone et finalement il y a une deuxième ville, une ville parallèle qui vient prendre vie autour de moi dès lors que j'entre dans le jeu. Et que j'utilise cette application pour redécouvrir mon environnement.
Alors, par exemple, je me promène à Paris, je peux aller sur l'appli Outside, Hootside, je le précise. Et j'ai des parcours qui vont m'être proposés.
Tout à fait, c'est ça l'idée, c'est qu'avec une seule application, on peut avoir une multitude de parcours. Ça évite aujourd'hui d'en télécharger une seulement pour une journée, de la désinstaller le lendemain. Ce qu'on souhaiterait faire avec Outside, c'est que je ne sais pas quoi faire le dimanche, j'ouvre mon application et comme Netflix, on va venir me proposer en fonction de mes préférences, en fonction du lieu où je me trouve, des expériences qui sont à proximité.
Oui, sauf que c'est moi qui suis le héros de la série en l'occurrence.
Tout à fait.
Alors je peux parcourir pour l'instant trois parcours différents, c'est ça ? Mais plus à venir, je suppose.
C'est ça. On a fait un premier déploiement qui était lors des Journées du patrimoine en septembre dernier. C'était avec les éditions Hachette, qui disposent de beaucoup d'ouvrages, du coup, imprimés. Et l'enjeu, c'était de les passer finalement au format digital. Donc, on aurait pu le faire avec son livre de sa chambre. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller sur place et de retrouver toutes ces balises qui ont été cachées pour nous. Donc,
alors, vous nous emmenez, on fait quel circuit, par exemple ?
Alors il y a le parcours, il y avait le parcours Trocadéro Montmartre, il y avait l'Arc de Triomphe et également, la Butte Montmartre.
Faisons le premier, tiens.
Le parcours Trocadéro.
Oui.
Alors le parcours Trocadéro, j'ai géré plus le projet sur l'Arc de Triomphe.
Faisons celui que vous voulez.
Mais l'Arc de Triomphe, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on parcourait. La place de l'étoile, on faisait le pourtour et on pouvait admirer pas mal de façades qui pouvaient nous en dire un peu plus finalement sur pourquoi elle était construite ainsi, quelle était la forme vue du ciel, etc. Tout ça pour petit à petit nous amener dans l'avenue, une des avenues où on a le plus beau point de vue sur l'Arc de Triomphe. Et après, on pouvait entrer à l'intérieur. Donc l'idée, c'était un peu de scénariser finalement cette visite et de nous amener vraiment comme un jeu de piste, une chasse au trésor jusqu'au point final et de démêler une petite intrigue proposée pour le visiteur.
D'où l'idée de la carte au trésor. Elisabeth, on s'aperçoit que la réalité augmentée, c'est véritablement un plus aujourd'hui dans le secteur du tourisme. Et je crois que vous avez trouvé une autre start-up.
Oui, Easytopia. Easytopia, ça c'est une application qui fait découvrir une ville grâce à la géolocalisation et grâce à la réalité augmentée. La réalité augmentée, ça permet d'illustrer par ces illustrations 3D des informations, hein, c'est ce que vous venez de nous décrire, sur tous les lieux touristiques. Et justement, l'intérêt de Easytopia, c'est de créer les premières villes en réalité augmentée.
Charlotte, justement, votre projet au départ, c'était pas une entreprise, c'était un projet étudiant et puis ça a évolué.
Oui, alors ça c'était il y a 2-3 ans.
Ouais.
C'était un projet étudiant que je menais avec mon associé Quentin Warnon, qui lui était développeur.
Qui est là, qui est de l'autre côté, on le salue.
De l'autre côté. Et l'idée c'était justement comment je peux arpenter ma ville en réalité augmentée. Et quand on a proposé ce dispositif lors d'un festival qui s'appelle le festival I Love Transmedia, New Image maintenant, il y a des musées à l'époque, des beaux musées qui sont venus nous voir et nous dire mais c'est génial, moi j'aimerais bien ça dans mon musée. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y aurait véritablement quelque chose à faire. On pouvait les aider dans cette démarche d'accès aux nouvelles technologies et dans le téléphone directement des visiteurs.
Oui, et puis ça permet d'ouvrir effectivement le champ des possibles aussi pour différents publics hein, qui ne se seraient pas forcément intéressés à certains aspects de la découverte de la ville. Que dit notre coach ?
Moi, je pense que Charlotte, vous avez un autre marché aussi qui peut être très intéressant pour vous. C'est les 2000 entreprises en France qui ouvrent leur porte au tourisme de savoir-faire. Ça vous fait quand même 13 millions de visiteurs. Et ça serait pas. Vous avez pensé à développer cette technologie pour,
c'est Monsieur Patrimoine Vivant qui parle là.
Oui, mais je pense que. Ça pourrait être très intéressant. Vous y avez pensé?
En fait,
vous avez
ce qui s'est passé, c'est que sur la première année et demie de notre activité, on a travaillé surtout sur le secteur des entreprises, donc hors institutions, culture, tourisme, mais vraiment même l'événementiel, et notamment pour ces visites d'entreprises et même mettre en avant certains dispositifs culturels. On a fait notamment un parcours qui va voir le jour là en avril pour aller avec Wilfred Owen dans le Cambrésis. Et donc, fort de cette expérience dans l'événementiel et dans l'apport de notre savoir-faire aux entreprises, on se dirige vers la culture, le tourisme, où les temps de décision sont beaucoup plus longs. Donc comme on n'a qu'un an et demi, du coup, c'est maintenant qu'on prend le plus de plaisir, parce que c'est finalement dans ce domaine-là qu'on est le plus utile.
Et vous serez au Laval virtuel très bientôt.
Tout à fait. D'ailleurs, on aura l'occasion de déployer l'animation. Donc tous les Lavallois pourront jouer à cette application qui sera disponible autour de la ville. Donc ce sera un compte écotouristique que l'on proposera qui s'appelle Greenesis et ce sera le premier contenu indépendant donc créé par le studio dans l'application.
Je vous ai coupé, Luc.
Non, je pense. J'ai cru comprendre aussi que vous recherchiez à faire une levée de fonds, parce que là, vous démarrez.
Tout à fait. On s'est rendu compte que l'intérêt des utilisateurs pour une application, comme l'opération qu'on a pu faire aux Invalides de Paris avec la licence d'Ubisoft Assassin's Creed, ça ramène des publics qui ne seraient pas forcément venus aux Invalides sans. Donc, ces contenus, on va aller chercher des licences. Et pour chercher ces licences, il faut des fonds. Donc, c'est pour ça qu'on recherche actuellement des investisseurs pour une levée de fonds à 2,5 millions d'euros.
Et on espère que l'appel va être entendu aujourd'hui sur Europe 1. On reste ensemble, on continue à parler tourisme et attractions à la française.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, 39-21. Venez poser vos questions à nos invités. Qu'attendez-vous, tiens, des nouvelles attractions touristiques? À vous de nous le dire. Vous avez la parole, c'est votre émission, c'est La France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1.
Le meilleur de la France bouge, vous êtes avec Raphaël Duchemin et ses invités, c'est l'été. On revient sur les nouvelles tendances en matière de tourisme.
À mes côtés, Elisabeth Assayag, comme chaque jour. Notre coach aujourd'hui, Luc Le Sénécal, PDG de Saint-James et président de l'Association nationale des entreprises du patrimoine vivant. Nos invités, Arnaud Ouette, créateur et dirigeant de Flyview, qui nous permet de survoler Paris de manière totalement inédite. Jean-Baptiste Delsuc, cofondateur de My Urban Experience, qui a créé avec la société Skyboy, une application pour faire des visites visio-guidées grâce à une appli. Et Charlotte Landry, cofondatrice de la start-up Augmenteo, qui a créé l'application Outside, le Pokémon Go, on peut le dire, du tourisme. Je crois qu'on a une question sur le hashtag Europe 1.
Oui, sur Twitter, Marc Belaïch nous dit, avec toutes ces innovations, est-ce la fin des visites touristiques avec le bon vieux guide papier?
Alors, qui a envie de répondre à Marc, qui est un fidèle de l'émission et d'Europe 1? Jean-Baptiste.
Alors, je pense pas. Je pense que en fait, chacune de ces innovations, c'est de nouvelles expériences, et ça dépend un petit peu de ce que recherche le client. Je pense que c'est plutôt une ouverture d'éventail de possibilités. Moi, je sais qu'on m'a fait la remarque en disant, mais avec vos visites, ça veut dire que c'est la fin aussi des guides qui vont faire les visites en personne. C'est très totalement antinomique avec ce qu'on fait, puisque nous, on embauche nos guides. Hein. On en a 5, on compte en embaucher d'autres. Donc, je pense que ça s'adresse à des publics différents. Et on peut avoir une expérience totalement différente à travers soit... Le système d'Augmenteo, soit le système de visio guidé. Quand on voit l'exemple de Flying View, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec une découverte de quartier. Donc je pense que aucune de ces innovations ne vient disrupter, pour employer un terme très à la mode, ce qui existe déjà. Je pense que c'est une autre façon de voir les choses.
Vous disiez tout à l'heure, on est dans 3 réalités différentes, hein, finalement, avec vos 3 propositions.
Oui, en fait, on a chez nous, c'est la réalité superposée, puisqu'on superpose un guide par rapport à une image réelle. À côté,
Flyview.
Je vais laisser répondre parce que...
Arnaud, chez vous, c'est un autre modèle.
Virtuel.
Et pour Charlotte.
Et nous, augmenté.
Donc, on a vraiment 3 perceptions différentes. Vous parliez des nouveaux publics. Vous sentez vraiment qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là? Il y a vraiment des gens qui ne seraient pas venus, par exemple, visiter l'Arc de Triomphe, qui viennent pour le jeu?
Il y en a très très fort. L'idée, c'est même pas tant de supprimer des dispositifs aussi, comme on le disait tout à l'heure pour le papier, c'est de rendre tout ça complémentaire. Donc au final, ce que ça va permettre de faire ce type de dispositif, c'est d'attirer tout simplement de nouveaux publics, de diversifier des gens qui ont l'habitude des visites papier, guides, etc. Vont peut-être être curieux de ces nouveaux dispositifs et d'autres vont s'intéresser désormais à ce type de visite.
Et puis ça crée de l'emploi, hein. Elisabeth, oui. Je crois que vous avez regardé, il y a énormément de métiers qui sont encore à inventer.
Il y a énormément de métiers à inventer, hein, parce qu'en 10 ans, dans 10 ans, 40 à 60% des activités du tourisme seront des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont 2 millions d'emplois directs et indirects. Alors, c'est dans les transports, dans l'hébergement, dans la restauration. Il faut dire que nous, on reçoit 80 millions de visiteurs étrangers chaque année. Mais pourtant, c'est un secteur qui a énormément de mal à recruter. Alors, est-ce un problème d'image, d'attractivité? Il y a 100 000 emplois à pourvoir en ce moment dans le secteur du tourisme.
Vous avez chacun créé des emplois aussi avec vos différentes entreprises. Charlotte, combien aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est 8.
Et vous, Arnaud?
On est 30.
30. Et de votre côté, Jean-Baptiste?
Et nous, on est 6.
Oui, donc ce sont des choses qui sont aussi en train de se faire, hein, qui vont probablement progresser. Vous avez chacun des projets différents. Que dit notre coach? Manifestement, il y a encore de la place à prendre.
Ah, il y a plein de place à prendre pour l'analyse qu'on avait faite sur les besoins des touristes. Je suppose que vous...
Quand
avez
vous dites
aussi...
vous, c'est avec les entreprises du patrimoine vivant.
Oui, avec les entreprises du patrimoine vivant. Il y a 2000 entreprises qui sont visitables, il y a 13 millions de visiteurs, mais il y a un potentiel énorme et on a besoin de ce type aussi de technologie. Vous êtes tous les 3 complémentaires et je vois bien le lien avec les entreprises qui font visiter. Je suppose que vous avez des versions dans les langues, parce qu'il y a un autre souci en français, c'est la langue. Parce que autant certaines personnes sont bilingues, mais parler japonais, parler chinois... parler coréen, c'est plus difficile.
Alors, est-ce que vous avez chacun effectivement des options
En fait, on a une option via le sous-titrage. Et l'application reconnaît la langue du téléphone et va... alors aujourd'hui, pour l'instant, on n'a que le sous-titre en anglais. Le but, c'est de développer d'autres sous-titres. Mais donc, va reconnaître si c'est... Alors là, si c'est l'anglais, ça va être en anglais. Si c'est une autre langue, ça va être automatiquement en anglais. Et le but, c'est d'avoir des sous-titrages dans les différentes langues. En reconnaissant la langue du téléphone, il mettra le sous-titre dans la langue du client qui utilisera l'application.
Quand je mets le casque Flyview, c'est pareil. Je peux avoir différentes langues qui me sont proposées.
Alors, ça arrive bientôt. On a beaucoup de touristes qui viennent. Donc, forcément, on s'est posé la question. Mais on a beaucoup de Français aussi. Donc...
Pour l'instant, c'est en français et bientôt en anglais, je suppose.
Exactement.
Et de votre côté, Charlotte?
Oui, c'est un process qui est assez dynamique, finalement, le changement des langues. On n'a pas toutes nos destinations, tous nos parcours qui sont multilingues, mais on étudie vraiment la question, en fait, avec nos clients. Quelle tranche de public vous avez? À ce moment-là, on adapte assez facilement.
Merci à tous les 3 d'être venus nous faire voyager, nous présenter vos nouvelles offres pour le tourisme d'aujourd'hui et de demain. Merci d'être venus sur Europe 1.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, le meilleur de la France bouge avec Raphaël Duchemin et c'est l'entreprise qui va bien.
Oui, elle va nous faire voyager dans le temps pour le remonter avec nous. Jean-Brice Lagourgue, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes le PDG de l'eau de Mélisse des Carmes. Ce sont des moines hein, qui ont lancé cette eau à Paris. On est en 1611, très précisément. Et ils élaborent l'eau de Mélisse.
Exactement. Ce sont les Carmes déchaussés sous Marie de Médicis. Qui se sont donc implantés rue de Vaugirard.
Ouais, ils avaient beaucoup voyagé, ils ont ramené avec eux des produits.
Des produits, et c'est un médecin féru de phytothérapie qui leur a donné la recette de l'eau de mélisse et qu'ils ont perpétué pendant 220 ans cette
confié cette formule au père Damien, c'est ça, qui était censé la garder secrète.
Voilà, alors ils l'ont passé de génération en génération entre les différents moines jusqu'au frère Paradis qui l'a vendu à mon ancêtre, Monsieur Boyer. Donc ça s'appelle maintenant l'eau de mélisse des Carmes Boyer au lieu de l'eau de mélisse des Carmes Déchaussée. Grand changement en 410 ans.
Oui, 1830, hein, c'est ça, c'est là que votre famille finalement arrive dans l'aventure et rachète, on appelait ça une licence, la formule d'un cordial, c'est ça?
Voilà, exactement, pour 50 000 livres d'or.
Alors à l'époque, on dit que ça a des vertus, cette eau de mélisse, on dit ça porte remède, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque?
Alors c'était les parfums qui portaient remède, on les appelait comme ça. Annick Le Guerrer, qui est une spécialiste des parfums, l'a catégorisé souvent comme ça, ou dans l'introduction du livre que vous avez l'a indiqué comme ça. Et en fait, il n'y avait pas de séparation entre l'hygiène, les parfums, on embaumait les corps, on soignait aussi bien, on ingérait ou on avait en usage externe, on embaumait les corps ou tout simplement on passait aussi un désinfectant. Donc c'était aussi bien un produit d'hygiène qu'un parfum. Donc il n'y avait pas toutes ces frontières, même de droit d'assise aussi, de droit sur l'alcool, entre les spiritueux et les parfums.
Alors, il y a le produit d'origine à base de plantes, évidemment. Depuis, il y a des choses qui ont changé parce que vous avez fait en sorte d'avoir vos propres plantes que vous cultivez. Les épices viennent toujours d'ailleurs.
Voilà, les épices viennent du monde entier parce qu'on est le bois de santal, la coriandre, la cannelle, l'anis vert. Voilà, viennent du monde entier et les plantes sont fraîches. Donc on a 14 plantes qui composent l'eau de mélisse et 9 épices. Donc les 14
toujours
plantes,
la même composition.
La même composition. Il y a la rue qui a disparu. RHUE. Mais sinon on a, parce que pour des raisons réglementaires.
Que dit notre coach entreprise du patrimoine vivant?
Oui, tout d'abord, félicitations parce que vous êtes entreprise du patrimoine vivant. Je crois que vous avez obtenu la labellisation en 2015, donc félicitations.
Merci.
Par contre, moi je pensais que vous étiez situé à Lourdes parce que votre eau, c'est l'eau miraculeuse, elle soigne tout. Alors le mal de dos, le mal de ventre, le transport aérien, tout, c'est miraculeux votre produit.
Alors certains disent que quand on fait tout, on fait rien, mais en l'occurrence, l'eau de mélisse, on la vend aussi à Lourdes, dans les monastères, dans les pharmacies, dans les magasins bio ou de boutiques naturelles. Et maintenant, on capitalise après l'eau de mélisse sur des produits à base de plantes, comme les tisanes, comme les savons, et tout ça est fait chez nous. À Carrière-sur-Seine, dans nos ateliers.
Vous avez dû vous moderniser, en tout cas aller au-delà du produit traditionnel et proposer d'autres choses pour séduire un plus grand public. Je crois que vous faites 450 000 flacons, c'est ça
450 000 flacons d'eau de mélisse.
Un tiers à l'export.
Oui, et un tiers à l'export.
Ça veut dire
donc
qu'on
à peu près
nous 300
000
connaît, on connaît
en France.
Le produit ailleurs.
On l'est.
On connaît le produit ailleurs, en
oui,
dehors de nos
connu,
frontières.
Au Canada, en Italie, en Belgique, à l'île Maurice. Ensuite, tous les dom-toms, ils apprécient beaucoup les plantes.
Et aujourd'hui, vous êtes une dizaine de salariés. C'est une entreprise qui va bien.
On est une dizaine de salariés, oui, et avec 25 VRP et agents commerciaux, mais qui sont multicartes. Et c'est une entreprise qui va bien, mais qui a des velléités de se développer. Et c'est ce que j'essaye de planter aujourd'hui pour notamment faire des salons à l'export.
Développer
mais aussi
comment
en France,
justement à l'international
développer à l'international, exactement, avec des salons comme Cosmoprof que j'avais fait il y a quelques années à Hong Kong et une rencontre acheteur au Japon.
Elisabeth,
vous vous situez comment? Vous vous situez comme de la parapharmacie, comme de la médecine préventive, comme de l'herboristerie? Quel est votre positionnement précis pour les consommateurs?
Alors, on est en parapharmacie, on est considéré comme un produit parapharmaceutique.
Mais c'est à vertu homéopathique, à vertu...
Alors, c'est pas un médicament, mais c'est il existe, je dirais, on serait un grand laboratoire. L'Odmélie serait aujourd'hui dans la catégorie des plantes, un produit traditionnel à base de plantes.
Donc, herboristerie.
Herboristerie, mais aujourd'hui, on ne peut pas, parce que pour enregistrer notre produit, l'Odmélie, c'est originel, dans cette catégorie de plantes, il faudrait un pharmacien responsable, il faudrait une structure, je dirais législative et autres, réglementaires, dont on ne peut pas se permettre. C'est pour ça qu'on est dans cette catégorie. Mais normalement, il existe une case de médicaments à base de plantes traditionnelles. Et normalement, on devrait avoir cette légitimité. Il se trouve que voilà, l'Odmélie, c'est personne, le législateur n'a pas toujours pensé dans quelle case mettre l'Odmélie, quoi. C'est un peu atypique.
En tout cas, c'est dans la case de nos grands-mères, hein, puisqu'elles le mettaient sur le sucre, notamment l'Odmélie des Carmes Boyer. Depuis 1611, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler.
Je vous en prie.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous voulez peut-être vous mettre vegan et vous ne savez pas comment vous y prendre? La solution s'appelle VegUp. On en parle dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.
Vous êtes avec Raphaël Duchemin sur Europe 1, les meilleures solutions de l'année dans la France bouge, celles qui se sont démarquées comme cette solution-ci, pour tous ceux qui refusent toute forme d'exploitation animale.
Une appli nous propose de nous coacher tout simplement, elle s'appelle VegUp.
Alors 5% des Français se disent végétariens, 40% se disent flexitariens, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent un tout petit peu de viande, donc ils mangent énormément de fruits et légumes. Et d'ailleurs l'Institut d'études Xerfi estime que les végétariens représenteront plus de 35% de la population française d'ici 2020. Donc dans cette appli VegUp, imaginez plus de 4000 recettes sur mesure qui ont été élaborées par une vingtaine de blogueuses culinaires. C'est une application qui nous donne des idées de recettes véganes, végétariennes. Elle prend en compte chacun de nos goûts. Elle prend en compte notre régime alimentaire si vous êtes plutôt du sans gluten, du sans lactose. Et elle a été lancée par deux jeunes diplômés. C'était en 2017, il y a bientôt 2 ans.
Et justement, l'un des cofondateurs est avec nous. Bonjour Robin Lietard.
Bonjour.
Merci. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Comment ça vous est venu, dites-moi, cette idée d'appli pour les végétariens?
Eh bien, en fait, ça vient d'une démarche personnelle de Salomé, mon associé et moi, où en fait, on commençait à réduire notre consommation de viande pour petit à petit devenir végétarien. Et en fait, il y a pas mal d'obstacles et de freins psychologiques quand on commence à réduire sa consommation de viande. Le premier, c'est les recettes, l'inspiration. Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais pas simplement manger la salade verte et du quinoa, comme souvent on peut penser? Ensuite, il y a les problèmes des carences. Est-ce que je vais pas manquer de fer, de protéines? Et enfin, quels produits choisir et où les trouver? Donc, il y a pas mal d'obstacles. Et sur chacun de ces obstacles, il y a des solutions, mais il n'y a pas une solution unifiée qui permet une expérience fluide. Et donc, on navigue entre des blogs, des conseils, des forums et d'autres applications, mais il n'y a pas une solution unifiée. Donc nous, VegUp, c'est vraiment ce qu'on propose dans cette application.
Alors justement, dans l'appli, vous proposez des recettes clés en main avec ce qu'on a dans le frigo. Comment ça marche?
Exactement. On va personnaliser son profil. Donc on va renseigner si on veut manger vegan ou végétarien, ses intolérances, son matériel de cuisine. Et ensuite, on a des recommandations de recettes qui sont complètement personnalisées. Et on axe sur le fait qu'elle soit de saison, locale et assez facile à préparer, puisque effectivement il y a beaucoup de recettes aussi très compliquées. Et nous, on veut que ce soit le plus simple possible.
Qui suggère ces recettes? Ce sont seulement des blogueuses spécialisées dans la cuisine? Qui
exactement.
Fait ça?
En fait, nous, on a fait le choix de travailler qu'avec des blogueurs plutôt que les utilisateurs génèrent leurs recettes pour avoir du contenu de qualité. Donc, si vous allez sur l'application, vous verrez, c'est que des très belles recettes avec des belles photos qui sont vraiment très appétissantes.
Mais pas de nutritionnistes ni diététiciens?
Les nutritionnistes, eux, proposent plutôt des conseils. Donc, ça va être des conseils sur où est-ce que je vais trouver le fer dans mes recettes.
Sur votre appli?
Exactement. Okay. Donc, on a une partie article, une partie recette. Et ces articles, ça va être sur comment avoir une journée équilibrée, comment trouver des protéines, etc.
Luc Le Sénécal, notre coach.
Alors moi, au début, j'avais beaucoup d'a priori sur la cuisine végane. Oui. Et j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des amis et qui m'ont fait l'autre jour un curry de pois chiche absolument délicieux.
Ah,
par contre, je considère quand même que j'ai parcouru votre site, c'est pas réservé un peu à une clientèle bobo. Il y a deux choses qui m'ont surpris. Mm-hmm. C'est le prix des ingrédients. La crème de coco allégée à 8,25 € dans le commerce, par rapport à une crème classique, c'est quand même 2,5 fois le prix. Et puis, l'autre chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est la provenance. La crème de coco provient d'Indonésie. Et ça me paraît un petit peu en contradiction avec cet esprit vegan. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On essaie de travailler sur la saisonnalité et les ingrédients locaux. Après, c'est vrai qu'on découvre de nouvelles cuisines quand on devient végétarien, des cuisines du monde, donc des cuisines indiennes, asiatiques, mexicaines, libanaises. Et forcément, il y a certains ingrédients qui viennent un peu qui sont un peu plus exotiques. Mais sur les fruits et légumes, on essaie vraiment de travailler sur la saison. Et après, sur la question du prix, on essaie aussi en ce moment de travailler sur les recettes pour qu'elles soient avec peu d'ingrédients et le moins cher possible.
Vous avez lancé un partenariat avec une enseigne, hein, Biocoop. Ça a changé beaucoup de choses. Ça vous a permis de vous développer.
Alors, Biocoop, c'était sur du scan de produits. On a testé du scan en magasin pour pouvoir scanner un produit à la manière de Yuka et découvrir des recommandations de recettes pour savoir comment cuisiner ce produit. Aujourd'hui, on essaie de développer d'autres partenariats avec des distributeurs pour pouvoir commander ces produits-là. Donc, c'est-à-dire qu'on passe de 3 recettes dans Vegup à une liste de courses et pouvoir commander. Donc ça, on le fait avec un autre distributeur qui s'appelle Aurore Market, qui permet de distribuer du bio et de commander du bio.
Et bientôt, on pourra peut-être même commander ses propres courses chez vous ?
Exactement. Là, c'est possible déjà, mais sur que les produits secs pour l'instant.
Combien de personnes ont adopté votre appli aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a 120 000 personnes au bout d'un an, donc on en est assez fiers. Voilà.
Et vous avez des salariés ?
On est 2 associés et on est 6 dans l'équipe, mais pas de salariés.
Vous avez dû effectuer une levée de fonds pour arriver à Vegup ou c'est avec vos propres finances ?
Alors, on a fait une première levée de fonds en novembre et là, on recherche de nouveau des fonds pour développer le site web et améliorer l'expérience utilisateur.
C'est Vegup, c'est l'appli à découvrir, hein, si vous ne la connaissez pas encore, pour peut-être, qui sait, vous mettre au végétarien ou au vegan.
C'était le meilleur de la France bouge. Tout l'été, on retrouve les entreprises innovantes qui ont marqué l'année. Et demain, on parlera de déménagement, des solutions pour déménager plus facilement avec un site internet pour résilier des contrats gratuitement, avec une entreprise de location d'utilitaires à bas prix ou avec la solution de déménagement low cost. À demain avec Raphaël Duchemin et ses invités sur Europe 1.